L'invité de ce lundi 25 mars, il est à Paris pour être même plus précise, hein, si je ne dis pas de sottises, c'est un musicien franco-britannique, Phil Paz, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver sur nos antennes. Alors, on a scruté un peu la base de données et effectivement, on a retrouvé un de vos titres qui a été mis dans notre système musical en 2011, où vous étiez interprète avec Gilles Kaplan.
Ah oui, ça doit être un album de le deuxième album de 2011, Letters Memory. Et I Won't Go Back, c'est ça?
C'est exactement ça. Alors, voilà. Je suis en train de regarder avec les albums voilà. Que j'ai sous la main, si j'ai Letters Memory. Eh ben, oui, je l'ai. Effectivement,
voilà.
Je l'ai sous la main avec
les
albums
je vous crois.
M'ont été confiés par Bianca. Alors, on va faire plus ample connaissance avec vous. Vous êtes français par votre maman, c'est ça, et britannique par votre papa, ou l'inverse?
D'origine italienne par ma mère et britannique par mon père. C'est pour ça que ça peut aussi bien se prononcer Pace que Pace, et même Passe des fois. Souvent, ça a été Pace à l'école et Pace un petit peu plus tard.
Et là, dans le registre professionnel, on vous appelle comment?
Pace,
d'accord.
D'accord,
Phil Pace. Alors moi, je vous ai appelé Phil Pace depuis le début. Voilà. En fait, vous êtes un véritable produit européen.
Oui, voilà, c'est pour ça. Donc la prononciation n'a pas une grande importance. C'est juste la sonorité qui compte. Voilà, Pace, j'aime bien. C'est international. Pace,
d'accord. Donc on va faire très très attention maintenant dans la déclinaison de votre nom. Vous êtes musicien depuis tout jeune. La musique vous a toujours attiré. D'où vient cet attrait? Et quelles sont vos influences?
En fait, très jeune, j'étais attiré par la musique. À la maison, chez mes parents, eux, ils écoutaient assez peu de musique. Et en fait, j'ai découvert la musique grâce à mon grand frère et à ses disques. Et c'est vrai que pendant des années, j'avais tout écouté en quelques jours, tous les disques qu'ils avaient, tous les 33. Et j'avais gardé le double bleu des Beatles, c'est Harvest de Neil Young. Et en fait, c'est vrai que pendant des années, tant que je pouvais pas m'acheter mes propres disques, j'ai écouté que ces deux albums.
Ah, vous étiez drôlement limité?
Oui, mais il faut croire que ça m'a profondément marqué, le côté pop, les mélodies, la fraîcheur des groupes anglo-saxons et des Beatles, et puis le côté folk US, acoustique, électrique de Neil Young. Et en fait, c'est vrai que je me suis rendu compte par la suite que c'est les deux branches de la musique que j'aime vraiment. Après, justement, les groupes, j'en ai découvert beaucoup d'autres, comme j'allais chaque été chez ma grand-mère à Londres, qui habitait à Londres, juste en face de la centrale électrique de Battersea. La centrale qu'on voit sur la pochette des Pink Floyd sur Animals.
Okay.
Vous voyez, la grande centrale électrique avec les quatre cheminées.
Oui, oui.
Donc ma grand-mère habitait juste en face, et comme j'étais jeune, je pouvais pas sortir et on regardait la télé. Et à la télé, tous les jours, c'était les Beatles, les Who, les Stones, les Kings, les Doors, du Rhythm and Blues.
Ah oui, alors là, vous avez étoffé le registre.
Voilà. Voilà. Puis après, comme beaucoup d'adolescents, des groupes au lycée. Puis après, lorsqu'il a fallu quitter le lycée, avec mon compère de cette époque, on a monté un studio d'enregistrement, un 4 pistes, un 16 pistes. Puis après d'autres groupes, des reprises, des compos.
Ah ouais, ça vous a pris très tôt alors.
Ça fait un petit moment.
Sans suivre un cursus scolaire musical, c'est vraiment autodidacte.
Non. Voilà, autodidacte.
Premier spectacle sur scène, vous vous souvenez?
Oui. Bon, il devait avoir 16 ans.
Ah oui.
Je crois que c'était du côté d'Avignon, il me semble. C'était un concert où on était allé jouer parce que quelqu'un connaissait le groupe et il leur fallait une première partie. On était allé jouer. Bon, je me rappelle, c'était pas forcément génial, mais voilà, on l'a fait. Donc c'est ça.
Ça a le mérite d'exister, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça. Le tout, c'est de commencer. Hein. Le tout, c'est de commencer. Et puis, ça a le mérite d'exister, voilà, que ce soit.
Ah, bah oui, il faut bien un début à tout. Hein.
On peut être bon au premier coup.
Donc, ce premier studio, vous l'avez monté à Marseille?
Oui. Avec Patrick Mathéis, avec qui je travaille depuis l'époque du lycée, hein, justement, avec lequel j'ai coécrit les quatre albums que j'ai faits.
Alors vous, dans la composition, vous êtes parolier. Ce qui vous interpelle, c'est les mélodies. Et vous arrivez à écrire à partir des mélodies ou c'est sur l'écriture que vous mettez de la mélodie? Comment ça fonctionne pour
vous? En fait, on travaille à deux. On arrive chacun avec des mélodies, des bouts de texte ou des idées. Et on structure ça ensemble par rapport à ce qu'on a envie de faire et l'idée qu'on veut dégager de la chanson. Donc en fait, la mélodie, moi j'ai pas de technique particulière pour composer. En fait, j'ai des mélodies qui par moment me trottent dans la tête, donc j'essaye de les retenir si je les trouve intéressantes. Mm-hmm. Et après, avec Patrick Mathéis, on structure ça. Et lui, des fois, c'est lui qui arrive avec des compos et on finit le travail ensemble.
Est-ce que pour qu'une chanson vous parle, il faut qu'elle ait un thème particulier, qu'elle évoque, je ne sais pas, là on a vu notamment dans le dernier album, Britain in the West, que vous étiez sensibilisé par ce qui s'est passé au Chili, vous êtes sensibilisé par l'environnement. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vous avez toujours besoin de vous motiver pour écrire dans le registre de la vie, de faire résonner les implications de la vie?
Bah, disons que c'est ce qui vient en premier, c'est la mélodie, c'est la base.
Oui.
C'est la mélodie, là c'est on va dire l'inspiration. Et après la partie travail, c'est pour écrire les paroles et le texte. Là c'est plus du travail où il faut réfléchir à quoi ce qu'on veut dire, quoi, mm-hmm. tout simplement. Et moi ce qui me touche, c'est enfin j'écris sur des thèmes qui me touchent, qui m'interpellent, qui me choquent, qui donc l'idée, elle peut venir aussi bien d'un thème, d'une actu, d'une photo, d'un film.
Alors c'est un peu le cas là, dans Britain in the West, c'est les photos de Wim Wenders qui vous ont inspiré?
Plus ou moins. Ils m'ont inspiré pour le titre de l'album, parce qu'en fait, après avoir sélectionné, on avait écrit une vingtaine de chansons, mm-hmm. on en a gardé une dizaine. Et en regardant un peu les thèmes, les textes après coup, je me suis dit que la plupart de ces histoires auraient pu prendre place dans le décor du film de Wim Wenders, okay. Paris, Texas. Et parce qu'en fait, Written in the West, c'est un recueil de photos qu'il a publié. C'est les repérages photos du tournage du film. Donc c'est les grands espaces américains au Texas, en Arizona. Et au Nouveau-Mexique aussi. Et j'ai trouvé que ça prenait vraiment, vraiment place. Et j'avais vu une expo photo de Wim Wenders. C'est vrai que j'ai vraiment adoré. Voilà. Okay.
Il y a des photos qui sont assez sombres quand même dans l'expo qu'il a produit là. Et puis d'autres, donc, qui le sont moins. Mais oui, c'est vrai que
oui, à chaque fois, c'est un univers précis. Hmm. Des fois, des photos de nuit, des photos de ville, des photos de désert. C'est très particulier. Là, pour Paris-Texas, c'est souvent des grands espaces, des lieux abandonnés sur lesquels il a jeté un regard un petit peu ironique sur le.
Bah, ça fait un peu désolation quand même sur certains, quoi. Sur certains clichés. Hein.
Oui. Donc, d'où le titre d'une chanson qui s'appelle Desolation Road.
C'est vrai.
Sur l'album.
Absolument. C'est un album qui comporte une douzaine de titres, c'est ça? 11 titres. Parmi ces titres, est-ce qu'il y en a un auquel vous tenez le plus ou il y en a un qui est plus votre chouchou
Non.
Non, non, ils ont...
non, honnêtement, je les aime beaucoup tous. Ils ont une ambiance particulière chacun. Je les aime autant les uns que les autres pour des raisons différentes. Hein. Chaque chanson a sa petite spécificité. Pour moi, en tout cas. J'espère pour les gens qui vont le découvrir, l'album.
Mais là, on a déjà découvert deux extraits. On en découvrira tout à l'heure. Cet album, vous le rodez-vous en spectacle? C'est important Bon, la partie, le support musical, bien sûr que c'est important, mais de le faire partager à un grand auditoire.
C'est totalement. Parce que
c'est la scène.
Pour moi, le parcours de la musique, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça a toujours été guidé par le plaisir de ressentir ces émotions et de les partager. Alors, les partager dans un premier temps avec les musiciens, pendant qu'on répète ou qu'on enregistre, et après le plaisir de les partager sur scène. Donc oui, on va jouer. On va jouer aussi bien avec tout le groupe, avec Spike, qu'en formation plus réduite, plus acoustique.
Alors qui est Spike?
Pike, c'est Jean-Luc Lopez à la batterie, Denis Richard à la basse et Patrick Mathéis à la guitare et moi.
Donc on a vu Mathéis, il est avec vous depuis plus de 20 ans. Les autres, ce sont aussi des musiciens de longue fréquentation ?
Oui, également. Plus d'une vingtaine d'années aussi. Et ce sont des amis aussi.
Ok, donc...
Pour moi, c'est assez difficilement concevable de partager ce type d'émotion avec des gens qu'on apprécie moyennement.
D'accord.
Donc ça peut se faire ponctuellement, mais pour moi, c'est une aventure commune.
Prochain spectacle, alors là, quand on a préparé cet entretien, vous me disiez que des spectacles étaient en cours de programmation. Quand c'est comme ça, vous prévoyez sur une région, comment ça se passe quand vous programmez des spectacles ?
Ben là, c'est le label, l'amende production qui va mettre en place ça. Mmh. Je sais qu'on va jouer sûrement dans le sud de la France, déjà du côté de Marseille, à Paris. Et il est fort possible qu'on aille jouer en Belgique et en Suisse. Aussi, parce qu'il y a des radios qui diffusent le single, le premier extrait, Shaila.
Oui, qu'on a entendu très tôt ce matin.
Oui.
Qui revient, Shaila, il parle un peu de ce qui s'est passé au Chili avec les mineurs qui sont restés coincés dans les décombres.
C'est assez extraordinaire et controversé, voilà, de trentaine, 33 mineurs qui sont restés bloqués à plus de 600 mètres sous terre pendant plus de 2 mois, quoi. Donc c'est hyper particulier. Et après, ce qui est encore plus particulier, c'est le temps que les autorités ont mis à
aller les chercher.
Aller les chercher, oui.
Effectivement.
Et parce qu'on se dit que voilà, pour aller extraire du cuivre ou du minerai, il y a de l'argent. Et dès qu'il y a des gens qui sont coincés sous terre, ben il y en a un peu moins. Donc c'est
assez consternant, c'est vrai.
Oui.
Des voix sur cet album aussi. Alors là, ce sont notamment, je vois Gilles Kaplan qui est de nouveau avec vous sur cet album. C'est des voix qui sont fidèles au groupe.
Ben oui. C'est une personne, Gilles Kaplan, que je connais depuis, parce qu'on avait travaillé lorsque je faisais partie d'un autre label. On avait travaillé ensemble justement sur I Won't Go Back et puis sur un album de reprise qu'elle a fait il y a quelques années. Ça s'appelle Revue, il me semble. Et voilà, bon, c'est une personne qui, j'adore sa voix, j'adore ce qu'elle est, donc voilà. Les deux voix se marient bien, donc c'est...
Mais justement, on va terminer cet entretien avec cette chanson.
Strange People.
Absolument, c'est ça. C'est cette chanson qu'on a programmée pour nous séparer. Un grand merci. On fera découvrir plus largement votre album tout au long de cette semaine sur notre antenne de matinale. Merci beaucoup, Phil.
Merci, Joël. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir. I don't know why I am here, but I am here. They speak to me with lovely voices, but I don't...